Votre grand journal de sort sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Bonsoir Sonia Mabrouk.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Votre invité c'est Dominique Moisy, géopolitologue, cofondateur de l'Institut français de relations internationales, professeur au King's College de Londres. Interview à la veille de la venue de plusieurs chefs d'État en France.
Bonsoir Dominique Moisy.
Bonsoir.
Dès demain, Emmanuel Macron va retrouver Donald Trump pour les cérémonies de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Comment qualifiez-vous aujourd'hui les relations entre les deux hommes, entre les deux présidents ?
Globalement positive, mais on sent que la volonté de se séduire l'un l'autre a sans doute disparu. Donald Trump va faire le service minimum. Il vient à Paris pour le 11 septembre, mais il aurait pu participer... Le 11 novembre, il aurait pu participer au Forum pour la paix. Il dit non, ça ne m'intéresse pas. Cette célébration... et cette défense du multilatéralisme, je vous ai dit ce que j'en pensais.
Mais franchement, est-ce une surprise ? On le sait, il a acté d'ores et déjà la fin de ce multilatéralisme, Donald Trump.
Tout à fait, mais il ne prend plus de gants. Il ne se cache plus du tout. Et on peut penser que depuis les élections de mi-mandat, on va voir un Donald Trump encore plus dur. Donald Trump plus. Sans doute le président français a-t-il renoncé à l'espoir, qui dans mon esprit n'était qu'une illusion, de séduire le président américain.
Mais force est de reconnaître, Dominique Moisy, que comme d'habitude en matière par exemple de politique étrangère, notamment au Moyen-Orient, c'est le président américain qui mène le bal, qui décide qu'on veuille le séduire ou pas, peu importe ce que dit la France ou l'Europe, qui est le gendarme du monde ?
Ben justement, c'est plus vraiment l'Amérique. Au fond, il se passe quelque chose de très intéressant entre 1918 et 2018, comme un jeu de chaises musicales. En 1918, celui qui parle de multilatéralisme, celui qui veut faire de l'Amérique le champion de la démocratie, c'est le président Wilson. Mm-hmm. Et le pauvre, le Sénat américain ne va pas ratifier les 14 points et l'Amérique va se replier dans l'isolationnisme. Aujourd'hui, celui qui a repris le flambeau du président Wilson, eh bien, c'est Emmanuel Macron. Et celui qui se comporte...
Intéressant ce parallèle en miroir inversé.
Et celui qui se comporte comme le Sénat américain qui a rejeté les propositions de Wilson, eh bien, c'est Donald Trump.
Plus largement, Dominique Moisy, la plupart des chefs d'État qui seront en France demain, il y en aura beaucoup, ont entendu parler de la phrase d'Emmanuel Macron sur Philippe Pétain. Alors, elle a été largement commentée en France, mais aussi à l'étranger. Vous qui enseignez, qui voyagez beaucoup, quelle image a-t-on projetée avec une telle déclaration ?
Je ne suis pas sûr que le débat français ait été à ce point perçu. Ma réponse personnelle... c'est que lorsque l'histoire est complexe, il faut l'aborder avec des nuances. Mon père disait toujours, lui qui a été trahi par la France, qu'il fallait distinguer, dissocier clairement le héros de Verdun du collaborateur de l'Allemagne nazie qui avait trahi les valeurs de la République. Et donc moi, personnellement, je ne suis pas choqué. Alors le problème, c'est que est-ce que lorsqu'on est au sommet de la politique, on peut donner des cours d'histoire et de nuances ? Eh bien, ma réponse finalement est oui. Il est plus jamais important
malgré
aujourd'hui.
Tout, malgré les critiques, malgré les débats, malgré tout ce que les médias disent de cette séquence, vous dites oui, il doit le faire.
Non seulement je dis oui, mais il doit le faire. Il est essentiel de garder la voie d'une approche passionnément nuancée de la politique
mais
et de l'histoire.
Mais Dominique Moisy, est-ce qu'à la fois on peut parler des préoccupations concrètes des Français, des prix des carburants, de la taxe d'habitation, etc., et de la grande histoire ? Est-ce qu'on peut faire du en même temps ainsi ? Est-ce que ce n'est pas le grand écart ?
Alors, ce que je dirais personnellement, c'est que les médias jouent un rôle souvent négatif. Ils ne sont pas à la hauteur des événements. Quand le président de la République se lance dans un exercice mémoriel qui me paraît essentiel, car il y a des leçons majeures à tirer de 1918 et de l'échec de l'armistice, qui n'a pas mené à une véritable paix pour l'époque qui est la nôtre, 2018. Eh bien, le message du président de la République est fondamental pour comprendre notre monde actuel. Et si on ramène tout vers le bas, si on veut flatter les auditeurs, les téléspectateurs, en mettant l'accent sur la hausse des prix des carburants et la baisse du pouvoir d'achat, on ne remplit pas le devoir démocratique et citoyen
qui
est celui de la presse.
Je ne vais pas me permettre une question, mais une remarque, puisque vous parlez des médias, vous avez raison, et puis l'introspection est toujours nécessaire. Peut-être y a-t-il une responsabilité partagée dans tout cela, et ça nous amène à réfléchir cette importance que vous dites, Dominique Moisy. On a appris aujourd'hui, c'est un sujet important, que le nombre d'actes antisémites est en très forte hausse en France en 2018, plus 69%. Vous avez raconté, vous, votre histoire et celle de votre famille à travers un livre intitulé « Un juif improbable ». Vous expliquez comment un jeune Français d'origine juive marqué par la Shoah devient un Européen convaincu. L'Europe, la France en particulier, reste, Dominique Moisy, une terre de confiance malgré ce contexte et ces chiffres aujourd'hui ?
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Les temps sont durs. C'est pour cela que les comparaisons que le président de la République fait avec les années 20, avec les années 30, sont importantes, car en réalité, elles sont justifiées, elles sont légitimes. Vous avez une libération de la parole qui entraîne la multiplication des actes de violence. Vous avez, dans des pays comme la Hongrie, où vous voyez le triomphe de la démocratie libérale et d'un nationalisme de repli sur soi, une campagne menée contre George Soros, le cosmopolite. Vous avez vu aux États-Unis que la libération de la parole avait entraîné dans la synagogue de Pittsburgh la plus grande attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. On ne joue pas impunément avec l'histoire.
Certains préfèrent partir en Israël. L'idée de l'Alia est répandue, c'est leur choix. Mais est-ce qu'il faut rappeler, Dominique Moisy, que la France voit partir ses citoyens aussi et qu'ils sont d'abord et avant tout français ? J'imagine peut-être que vous avez été séduit aussi par l'idée, peut-être que ça vous a effleuré aussi l'esprit ou pas ?
Très jeune sans doute, mais ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut rester en France. C'est mon pays, sans la moindre ambiguïté, mais se battre pour les valeurs de la République avec nuance et détermination.
Et ces valeurs dont vous parlez, elles vont être évidemment portées et célébrées dès demain et dimanche, évidemment, pour ces commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. Merci d'avoir été notre invité, Dominique Moisy. Et on retient l'introspection importante pour les médias. Tout le monde doit se remettre en cause, n'est-ce pas ? Merci à vous.
Merci Sonia.
Merci Mathieu.
Et à lundi, 19h19.
Avec grand plaisir.
17h, 20h,
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Le rappel de l'info avec Marion Calais.
Une ville de 26 000 habitants partiellement détruite. Violent incendie dans le nord de la Californie autour de la ville de Paradise. Un feu qui a fait des morts et des blessés selon les autorités. Après la perquisition et les auditions au sein de la France Insoumise, l'ouverture de deux informations judiciaires pour abus de confiance et détournement de fonds publics notamment. Jean-Luc Mélenchon se réjouit d'un retour à la normale judiciaire. Une plainte pour discrimination, une saisie du Conseil national d'éthique. Les suites des révélations sur un fichage ethnique au PSG. Le club promet de révéler aux autorités les résultats de son enquête interne dès la semaine prochaine.
Merci Marion, 19h20. Les midterms aux États-Unis, nous allons en reparler avec les grandes voix qui vont s'installer en studio dans quelques instants, même si l'essentiel de l'actualité de la semaine et de nos débats dans un instant, c'est la semaine d'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Il est 19h20. Je vous attends au 39-21.
Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Et avec les grandes voix, oui, nous sommes vendredi soir et vous le savez, tous les vendredis, les grandes voix sont avec nous en studio pour revenir sur l'actualité de la semaine, se projeter sur la semaine qui vient. Bonsoir Catherine Ney.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue. Robert Namias est avec nous également.
Bonsoir.
Gérard Carrérou.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à vous trois et bonsoir à Benjamin Muller.
Bonsoir Mathieu,
studio.
Bonsoir à tous.
Ça va Benjamin ?
Ça va très bien.
Comme chaque jour, on voit avec vous comment un sujet de l'actualité est traité dans les médias et aujourd'hui, on fait le bilan de la semaine d'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron.
Alors, comment l'a résumé cette semaine, les grandes
grande voix, ça va vous faire plaisir, puisque c'est l'un de vos camarades qui va le faire pour nous. C'était il y a une heure sur France Inter.
Alain Duhamel, Emmanuel Macron, il a passé quand même une mauvaise semaine lors de
pas
ce...
Pas mauvaise, détestable.
Détestable, il s'est fait engueuler, on peut le dire, par beaucoup de Français.
Voilà, on peut le dire, semaine détestable, dit Alain Duhamel. Effectivement, tout a commencé lundi où le président a tenté de dialoguer avec tout le monde.
Le château.
Mais si vous avez vos certitudes et que vous m'écoutez
et
pas.
En bas, c'est.
Mais monsieur,
les
je suis où là?
Voilà, c'est des gens qui
souffrent. Non, là vous faites des.
Les Français souffrent.
Vous êtes
beaucoup
voté
de gens,
j'ose
pas vous le dire. Là, en ce moment, on vous serre bien la main et tout. Juste
mais,
pour
mais moi, je...
vous amadouer, vous dire monsieur le président.
Voilà, pas simple de dialoguer quand on ne s'écoute pas. Cela dit, le monsieur en question, bah, il a quand même eu pas mal de courage pour dire ceci au président.
Vous savez, je suis la politique depuis l'âge de 13 ans. Mais... J'en ai 63. Et ça m'intéresse depuis l'âge
mais
de 13
aussi,
ans.
Mais moi aussi, ça me passionne. Donc il faut pas en rester
souvent. J'écris justement un livre là-dessus.
Alors,
politique, alors c'est pas très, très gentil pour vous.
Voilà, bonjour monsieur le président, j'écris un livre sur vous, je vais vous désinguer. Bonne journée. Et ça c'était que lundi, vous imaginez, mardi, Emmanuel Macron était l'invité d'Europe 1.
Bonjour monsieur le président.
Bonjour.
Vous entamez une itinérance mémorielle et vous allez parler du passé pour peut-être entrevoir l'avenir.
Et Nico, ça a eu raison d'ajouter peut-être parler de l'avenir parce que dans les faits avec les Français, il a surtout parlé du présent.
Je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi.
Il y a quand même des taxes de l'État.
Non.
Voilà, ça les fait rire, le carburant, c'est pas Bibi. Il le dit en rigolant, tout va bien, personne ne l'a insulté. Mercredi, comment ça s'est passé?
Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat.
Ouh la boulette, parce que forcément, le soir à la télé.
Cette polémique donc, qui enfle en plein périple mémorial d'Emmanuel Macron et qui doit se justifier sur l'hommage qu'il a rendu au maréchal Pétain.
Et oui, encore une polémique, mais au moins là, il n'y a pas eu de Français pour lui rentrer dans l'art, c'est bien. Alors que je dis...
Vous prenez dans la poche des ouvriers aujourd'hui, monsieur Macron.
Monsieur, on n'est pas là pour faire le show. On est là ensemble pour essayer de réussir.
Mais on réussit sans vous, monsieur Macron.
Oh là là, il était temps qu'elle finisse cette semaine. Alors aujourd'hui, beaucoup de chaînes ont organisé des débats pour analyser tout ça, comme vous allez faire dans une seconde, Mathieu. Notamment ce débat que j'ai écouté pour vous sur Sud Radio.
Peut-on traiter le président d'escroc?
Ah bah ça avait l'air sympa, dis donc, ça vous ferait une bonne première question pour les grandes voix. Tiens.
On pourrait commencer par ça, mais je pense qu'il y a plus important que de savoir quel qualificatif utiliser pour insulter le président de la République. Je suis pas sûr, Benjamin Muller, bien essayé.
Bien essayé. J'en sais rien, essayez toujours, on verra.
Peut-on traiter le président? Non, j'y arrive pas, merci. Merci, j'allais dire Emmanuel Macron. Mais merci Emmanuel Macron en tout cas de nous fournir un élément
fait,
de débat par jour.
Ça, c'est ça. J'espère que la semaine prochaine il restera sur le même rythme pour ma chronique du vendredi.
Bon week-end Benjamin, 19h26.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 et vous l'aurez compris, nous allons revenir sur cette semaine. Et effectivement, merci à Benjamin d'ailleurs d'avoir résumé en deux minutes les temps forts de cette semaine. Il s'en est dit des choses, il s'en est passé des choses cette semaine d'itinérance mémorielle. Nous en parlons dans un instant avec les grandes voix. Il est 19h26.
17h, 20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et le vendredi soir, les grandes voix d'Europe 1 vous accompagnent. Mathieu, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Robert Namias.
Bonsoir à tous. Alors, semaine détestable, disait Duhamel. On va essayer d'être un peu plus précis dans les analyses ce soir. D'abord, on l'a beaucoup dit en amont, l'idée... si on met de côté le caractère mémoriel, la guerre de 14-18, l'idée d'Emmanuel Macron sur cette semaine, c'était aussi d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des Français, Catherine Ney.
Moi, je pense qu'il allait surtout rencontrer les élus locaux, parce qu'il a fait quand même 17 étapes, et à chaque étape, il y a eu soit des déjeuners, soit des dîners avec les élus locaux, qui sont venus une dizaine, une vingtaine, chaque soir ou chaque déjeuner, où chacun exposait ses problèmes, il a rencontré sur le terrain, il les écoutait. Plusieurs ministres étaient à ses côtés, selon, il y avait la ministre de la Santé, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, enfin bon, et lorsque le sujet intéressait Blanquer aussi. Et quand le sujet est traité par l'élu intéressé le ministre répondait. Et à la fin, le président faisait une synthèse, expliquait, promettait. En tous les cas, il a pris du temps et tous disent que c'est la première fois qu'ils ont vu un président passer autant de temps avec eux. Alors, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron a de très mauvais rapports avec les élus locaux, avec les territoires. Donc, c'était une reconquête du territoire avant une reconquête du peuple. Donc alors, les élus, on le sait, sont des relais d'opinion.
Bien sûr.
Ils vont être vigilants. Là, ils sont plutôt optimistes, ce que j'ai eu au téléphone. On va voir. Mais en tous les cas, de ce point de vue-là, ce qu'on ne voit pas, c'est ça. Vous voyez, dans le voyage.
Bien
on
sûr,
le voit
bien
pas,
sûr.
Ça.
On le voit. Nous, on le voit quand il déambule,
oui.
Quand il marche auprès de Français avec beaucoup de journalistes aussi. Faut
oui,
bien
oui, oui. Mais là, c'est pas son face-à-face avec les élus locaux directement.
Qui là, pour le coup, est peut-être moins visible. Gérard Carrérou.
Moi, je crois que c'est raté. Pour une raison simple, c'est que il a voulu réussir deux objectifs qui sont au fond assez contradictoires. Le premier objectif, qui était dans son principe tout à fait louable, c'est de donner la plus grande importance à ce centenaire, à rappeler aux Français leur histoire, un peu reconquérir les mémoires, parce que c'est un peu les grands-pères, les arrière-grands-pères, les grands-pères, les poilus, etc. Donc, et le faire en tant que président de la République en allant sur le terrain, dans tous les endroits où les gens avaient le plus souffert. Ça, c'était très bien. Il aurait pu le faire, et je dirais d'une certaine manière, se limiter à cet aspect régalien. Mais il a voulu en même temps, et là je rejoins ce que disait Catherine, il a voulu en même temps en profiter de ce long voyage pour aller reconquérir à la fois les élus et le peuple, les vrais gens. Alors en disant, on fera des bains de foule, on ira ici et là. Et c'est là que l'histoire c'est très compliqué et même devenu un échec. C'est que au contact des gens, les gens se sont sentis libérés. Ils ont d'ailleurs été pas très polis dans l'ensemble. Ils sont allés cash au contact pour dire. Et c'est là qu'ils ont sorti et l'essence et les taxes et les retraites, etc., etc., etc. Le défouloir de tous les mécontentements. Et du coup, on a un peu oublié le côté prestigieux de notre grande histoire. Et puis la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, ça a été le maréchal Pétain. Ça, il s'est piégé lui-même. On sait bien en France qu'à tout moment, quelqu'un qui parle de Pétain, il va cliver les gens. Il va cliver les gens parce que, effectivement, c'est une page sombre, notre histoire. Pour la plupart des gens, les plus jeunes notamment, c'est quand même les années, on retient de lui les années de la Deuxième Guerre mondiale.
Bien sûr, Vichy.
Et lui, il a dit strictement, et là je l'approuve totalement au bout près, il a dit la vérité vraie. Il a dit Pétain, ça a été un grand militaire, et c'est vrai pour les mutineries de 17, pour un certain nombre de choses, mais en même temps, ça a été quelque part, entre guillemets, un salaud dans la période où il a gouverné. Mais ça passait pas. Ça passait pas. Donc, globalement, ce salmigondi de régalien et puis de controverses ici et là, je pense que ça a fait rater le voyage.
Robert Namias.
Alors, écoutez, moi, j'ai pensé exactement ce que vient de dire Gérard, et j'aurais dit à peu près exactement la même chose il y a encore quelques heures. Et puis finalement, j'ai réfléchi.
Moi aussi, hein.
Oui, oui. Et je me suis dit deux choses. La première, c'est que ce que vient de dire Gérard, et ce que je pensais il y a encore quelques heures, c'est en fonction de critères qui ne peuvent pas être ceux qui permettent d'évaluer ce voyage. Car ce voyage n'a pas de précédent. Dans la Ve République, il n'a pas de précédent. Ça n'est pas un voyage présidentiel comme tous ceux que l'on a connus dans le passé. Quand on parle de bain de foule, ce qu'on a vu là n'a pas de précédent non plus. Le bain de foule, c'était
Mais c'était pas des bains de foule.
Non, si De Gaulle a fait des bains de foule.
Non, mais là, en l'occurrence, il y avait très peu de monde.
Non, mais tu permets que je raconte quand même. Bon, très bien.
Oui.
On se souvient de De Gaulle qui allait près des barrières, qui serrait quelques bains. S'il y avait un type qui commençait à dire quelque chose, d'ailleurs, personne n'osait jamais rien dire. Bon, enfin, il se faisait évidemment remettre à sa place.
Et il a été le premier à faire des bains de foule, le général.
Même chose pour les autres, sans oublier ceux qui ne faisaient rien du tout. Par peur des manifestations, et je pense notamment à la fin à Sarkozy et à François Hollande. Quant à Chirac, lui, il n'y avait jamais personne autour de lui parce que les barrières étaient à 1 kilomètre du lieu où il se trouvait. Donc on est là dans une situation absolument sans précédent, avec aucune évaluation possible. Et effectivement, pensant comme Gérard que, au fond, ce voyage avait abîmé l'image présidentielle, se faire traiter d'escroc pour le président de la République, c'est quelque chose d'innommable dans tous les sens du terme, je ne sais pas comment il faut le nommer d'ailleurs. Et je me suis dit que finalement, à temps nouveau, eh bien, voyage nouveau, rapport nouveau au peuple, et aujourd'hui, peut-être qu'un président de la République peut se faire engueuler sans pour autant ne plus être président de la République. Il est toujours président de la République. Et si vous ajoutez ce que disait Catherine à très juste titre vis-à-vis des élus locaux, si on se dit que finalement, parce que même, alors là, Pétain, qui évidemment nous fera beaucoup, compte tenu de notre histoire personnelle, de nos âges aussi, il faut bien dire, moi je suis persuadé que ce qu'on appelle la grosse gaffe Pétain, la semaine prochaine, plus personne n'en parlera. Ce sera complètement oublié. Ce qui va rester, c'est un président de la République, mais alors là, pour le coup, nouvelle norme, et qui a une gouvernance radicalement différente de ses prédécesseurs.
Alors,
je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va lui permettre. Mais la question n'est pas celle de la popularité immédiate. En plus, on va voir ce que donne quand même la journée très importante du 17 novembre. Mais encore une fois, il faut se garder d'évaluer ce qui vient de se passer avec nos critères du passé.
19h36.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 et vous avez bien raison, les grandes voix sont là pour revenir sur cette semaine politique. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, votre grand journal du soir et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir avec pour autour de vous Gérard Carrero, Robert Namias et Catherine Ney. Mathieu.
Et c'est vrai que c'est difficile de savoir si cette itinérance mémorielle, pour reprendre l'expression, aura un effet positif ou négatif sur la popularité d'Emmanuel Macron, sur le court ou le long terme. Cela dit, ce que disait Gérard à l'instant, c'est difficile de mélanger le mémoriel, l'armistice de 1918 et puis des débats sur le pouvoir d'achat, le carburant, Catherine Ney.
Bah, écoutez, de toute façon, il ne pouvait pas imaginer que faisant 8 jours de mémoire, on allait lui parler que des poilus. Donc c'est la vie qui évidemment qui entrait dans cette itinérance. Donc les gens, ils leur parlaient de quoi? De leurs problèmes. Ils se moquaient pas mal que les taxis de la Marne, ils ne savaient pas combien eux ils avaient payé leur gasoil. Hein.
Oui, mais alors
c'est vrai. Je veux dire, c'était
inévitable.
C'était inévitable. Mais quand on montre les images où il y a des gens qui sont très agressifs et qui le traitent d'escroc, mais les gens aujourd'hui ils parlent comme sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a plus de filet. On parle au président comme les réseaux sociaux passent leur temps à dire des choses terribles sur le président. Et c'est ça peut-être qui est nouveau.
Non, qu'il soit capable de l'entendre aussi, s'il décide d'aller dans la rue.
Mais je crois que non seulement il est capable de l'entendre, mais qu'il aime la castagne et qu'il a une certaine jouissance. Il adore l'hostilité parce qu'il pense qu'il va réussir par ses arguments à retourner l'opinion.
Oui, mais alors là,
c'est pas sûr du tout qu'il réussisse.
Je suis d'accord exactement avec ça. Je pense, qu'il est courageux.
Oui.
Parce que ça a l'air de rien, mais même si on est protégé par des dizaines et des dizaines de personnes, aller au contact, c'est toujours difficile quand on est un homme public du plus haut niveau. Donc il est courageux. Mais il est courageux, il aime ça, parce qu'il se dit, de toute façon, je serai plus fort qu'eux. Quelque part, il se dit, je serai plus fort qu'eux, et ils me diront, oui, mais alors les taxes, machin, et il leur sortira, je sortirai des arguments.
On le voit avec l'ouvrier chez Renault qui hurle au fond, et on comprend que le service d'ordre essaye de le sortir. Et Emmanuel Macron est là, mais venez si vous avez des choses à dire.
Mais ça lui avait réussi dans le passé, ça lui a réussi pendant sa campagne, cette technique d'aller aux gens, si j'ose dire, et de leur parler. Il se fait effectivement incendier un moment, mais il reprend l'avantage. Sauf que mon interrogation, moi, là, en tant que commentateur, c'est de savoir si ce spectacle télévisé, parce qu'en fait c'est ça pour la France, c'est pendant 8 jours, on voit tous ceux qui regardent
la télé-réalité politique.
Est-ce que c'est pas de la télé-réalité politique? Et est-ce que justement ça ne va pas à l'encontre de l'image d'un président qui prend les grandes décisions? Et je dirais pour terminer ce point que par exemple, alors c'est pas une référence, mais que Trump par exemple, il est allé au peuple là dans les midterms.
Ah, oui,
il était tous les soirs 3-4 meetings.
Oui.
Mais il disait ces choses, ces conneries ou ces choses juste à la tribune, il ne faisait rien de qui le mettait.
Il restait
en
président
absolument.
Robert Namias.
Mais là, je crois que la séquence qu'on va avoir pendant le week-end, notamment, avec quand même autour de Macron 70 chefs d'État et de gouvernement,
78,
répond à cette question. C'est-à-dire que précisément, quand je parlais tout à l'heure d'une nouvelle gouvernance présidentielle, si j'ose dire, d'un nouveau comportement présidentiel, je pense que Macron, alors on verra si ça fonctionne ou pas, mais ça on ne le verra que dans plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est pas le prochain sondage de la semaine prochaine qui fera bouger la popularité, ça certainement pas. Mais en revanche, un président qui tout à la fois est capable d'être ce qu'il a été pendant cette semaine au contact du peuple et en même temps d'être celui entouré de 78 chefs d'État et de gouvernement. Moi, ce qui me paraît essentiel par contre sur le fond, à la veille du 17 novembre, c'est que pendant 5 jours, on a vu Macron et entendu Macron dire « j'entends votre colère ». C'est le leitmotiv, c'est l'espèce de jingle permanent, d'ailleurs répété à l'infini par tous les ministres. « J'entends votre colère ». La question n'est pas de savoir s'il entend les colères. Or, on a cru voir quand même chez Macron une légère évolution. Parce que avant, il pouvait éventuellement entendre les colères, comme on les entend quand on est à sa fenêtre. Mais pour autant, ça ne l'oblige pas, il ne se sentait pas obligé de changer quoi que ce soit à sa politique. Là, on va voir, c'est ce que disait, j'entendais Xavier Bertrand qui le disait très justement hier, il ne suffit pas d'entendre les colères, faut-il savoir s'il y répond d'une certaine manière par des évolutions dans les décisions qui sont prises concernant les carburants, concernant l'affaire du permis de conduire comme il la montre aujourd'hui, concernant d'autres choses.
Oui, donc, mais alors c'est là qu'il a donné l'impression,
et c'est là qu'on va voir comment ça joue notamment sur le 17
il a quand même donné une forte impression d'improvisation. Je prendrai que le dernier exemple, celui des permis de conduire. On a plus que l'impression, puisqu'on commence à avoir des éléments, il a lancé cette affaire sans pratiquement s'être enquis de savoir ce qui se préparait à la commission parlementaire qui travaille sur ce sujet, ce qu'en pensaient les ministères concernés. Il a un peu balancé le truc. Ah oui, ça coûte très cher,
François,
les permis.
François Geffrier, clairement, dans ses services, on n'était pas très au courant de l'annonce.
Même chose sur l'essence.
Oui, mais ça prouve que précisément, il a bien voulu marquer
Non, mais ça veut dire qu'il n'avait pas déminé avant.
Il n'avait pas déminé
d'ailleurs,
avant.
D'ailleurs, là, quand il est venu au micro de Nikos Aliagas, il a répondu sur l'affaire Benalla, parce qu'il n'avait pas avant répondu sur l'affaire Benalla, et qu'on était déjà en retard. On avait besoin d'une réponse. Bon, maintenant, c'est clos. Mais sur l'essence, sur ces choses-là, on ne l'avait pas entendu. On n'avait pas entendu. Donc là, cette fois-ci, il a répondu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, bien sûr, il y a eu des gens qui l'ont critiqué, plus, c'est des régions autour de Maubeuge, il y a 20%, il y a vraiment une misère sociale.
Donc les gens, on y vote Front National et
on y vote Front National et abstention. Donc c'est quand même difficile.
Voilà, de ces régions qui a voté contre lui à la présidentielle.
Mais il n'empêche. On voyait aussi que les gens disaient, reconnaissaient qu'il était courageux. Et il dit, moi je suis heureux. Moi je suis heureux avec eux. Et il avait l'air sincère. Alors on dit, encore c'est du masochisme peut-être. Mais je crois que c'est vrai qu'il aime et qu'il a découvert ça. Et que ça, moi je dirais que c'est sa première vraie campagne de terrain.
19h45. Vous restez sur Europe 1 avec les grandes voix. On revient dans quelques toutes petites secondes bien sûr.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Ney, Robert Namias et Gérard Carrero.
Il arrive à Paris, Donald Trump, mais la semaine a été agitée pour lui aussi. Le vote, c'était mardi, Donald Trump. Alors, Gérard Carrero, vous qui connaissez si bien les États-Unis, je vais vous poser la question. Qui a gagné?
Il a bien résisté. On parlait de résistance. Les démocrates disaient, il faut résister. We must resist. Bon, ils ont tellement bien résisté que c'est Trump qui a bien résisté. Parce que finalement, je reviens pas sur tous les chiffres, on les a entendus sur Europe, mais il a réussi ces élections de mi-mandat qui sont toujours fatales,
oui, faut le rappeler,
très difficiles pour tous les présidents.
Souvent plus d'ailleurs.
Il a réussi ces élections, je prends le dernier exemple, son prédécesseur, mieux qu'Obama. Puisque, comme Obama, il a perdu une des chambres, mais il a perdu moins de sièges dans cette chambre, en l'occurrence, la Chambre des représentants, qu'Obama. Donc, en gros, comme on prédisait un cataclysme, il va se faire
complètement
bazooker, la vague, etc. Le tsunami, tout ça n'a pas eu lieu. Donc, pour lui, il s'en est bien sorti. Ça va lui permettre de gouverner. Ça va être plus difficile parce qu'il va falloir un peu faire de la cohabitation.
Un peu plus de contre-pouvoir.
Un peu de négociation en permanence avec la Chambre des représentants sur le budget, sur un certain nombre de choses. Mais en même temps, ils ont déjà dit, les démocrates, ils ne poursuivront pas la procédure pour le destituer.
L'impeachment.
Ce qui est déjà, donc il est tranquille. Il sera président pour les 2 ans qui viennent. Et en même temps, il est encore aujourd'hui favori pour la prochaine élection.
Robert Namias.
Mais alors, moi, je pense qu'on est passé, comme d'habitude, et très souvent, d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire Donald Trump qui devait être balayé quasiment par une vague démocrate, un Donald Trump qui avait tout gagné, parce qu'au fond, le fait même que les démocrates aient gagné la Chambre des représentants n'était pas très important dans le mode institutionnel américain. C'est un tout petit peu plus pointu que cela, je pense, quand on regarde les derniers résultats. Parce que les résultats ne sont pas complètement dépouillés encore aussi. C'est bizarre que ça puisse paraître.
Il y a toujours beaucoup de recomptes.
Et alors, ce qu'on voit là, dans les recomptes, effectivement, c'est que finalement, la Chambre des représentants, remportée par les démocrates, le serait beaucoup plus largement qu'on ne l'a dit. C'est-à-dire que les représentants démocrates auraient 40 sièges d'avance et non pas 26, comme ça avait été dit dans la nuit de mardi à mercredi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Ils en avaient 63 à l'époque.
Oui, non, mais bien sûr.
Donc la tendance reste la même.
Et le Sénat, il y aurait 52 à 53 républicains et non pas les 54-55.
Oui.
Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un chiffre évidemment qui est toujours très difficile à manier, c'est le chiffre des voix. On l'avait manié au moment des présidentielles pour dire oui, mais Trump n'a pas été bien élu parce qu'il y avait 3 millions de voix favorables à Hillary Clinton, de plus que pour Trump. Quand même, quand on regarde là, on va être entre 7 et 8 millions de voix de plus pour les démocrates. C'est vraiment beaucoup. Alors ça ne remet pas du tout en cause le système institutionnel américain, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. On a le nôtre. Je dis simplement que, on en parlait d'ailleurs avec Gérard tout à l'heure, 3 millions de voix de plus il y a 2 ans, c'était déjà important, mais ça permet quand même à Trump d'être élu avec le système américain. 6-7 millions, ça pourrait être un peu plus compliqué qu'il n'y paraît.
Il va falloir reconquérir les femmes, parce que manifestement, il a perdu des blocs entiers, y compris des femmes républicaines. Là, elles ont voté davantage en femmes qu'en républicaines. Et ça, c'est un vrai problème.
Catherine Ney.
Écoutez, moi, je crois que vous avez tout dit. Moi, il y a un sondage...
Sur le vote,
moi aussi, je m'attendais quand même, comme moi, j'aurais évidemment, c'est pas quelqu'un qui me plaît énormément, je pensais qu'il ferait un plus mauvais score, et je trouve qu'il s'en sort plutôt très bien. Et d'ailleurs, j'ai vu la façon dont il a mouillé sa chemise, si on peut dire, quelle campagne il a faite, hein, avec son manteau bleu marine sur scène et tout ça, on le voyait partout. Il y avait quand même partout des foules, mais enthousiastes. Là, il n'était pas hué, hein. Et là, il a vraiment derrière lui des gens...
Une base très solide, qui ne lâche pas.
Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que sa base monte aussi en France. Parce qu'il y a un sondage aujourd'hui qui montre qu'alors que 81% en novembre 2017, il y a un an, était contre Trump, maintenant il montre que 65% des sondés... Il a gagné 15 points chez les Français. Parce qu'on dit, il fait ce qu'il dit. Il a des résultats économiques. Et vraiment, il est moins honni qu'on ne le croyait, y compris
Catherine,
en France,
vous,
où il n'est pas aimé pourtant.
Vous me parliez aussi de sa violence contre la presse.
Ah, mais ça, comment on décide de quelqu'un qui lui pose une question anodine, enfin qui ne lui plaît pas, et qui est éjecté de la Maison-Blanche.
Personne d'accréditation.
C'est CNN. Oui. CNN, c'est une. Alors, moi, j'ai encore vu ça pendant 2 mois la dernière fois. CNN, du matin au soir, fait une campagne. On parle de Fox News en France. On dit c'est une chaîne de droite.
Mais Obama n'a pas dégagé les journalistes de Fox News à l'époque.
Non, mais c'est devenu les ennemis. Il a comme ennemi, et il sait que ça marche vis-à-vis de son électoral. Son ennemi, c'est Fox News. Fox News, c'est l'ancienne chaîne c'est l'image de la chaîne de Jane Fonda qui était mariée avec Ted Turner, etc. C'est la gauche caviar. Et cette gauche caviar, elle est Trump, mais Trump lui rend bien. Et l'incident là, c'est pas par hasard, ça s'est produit avec un journaliste de Fox News.
Ce qui s'est passé cette semaine me laisse penser que finalement, le président français, Macron, n'est pas loin de trouver que la technique de Trump qui consiste à mettre en cause les médias pour mettre le peuple de son côté est une assez bonne méthode. Parce qu'on voit bien qu'il a esquissé un certain nombre de pas de ce côté-là. Et le problème, c'est qu'effectivement, les médias peuvent parfois donner des verges pour se faire foutre.
Mais il a déjà viré les journalistes de l'Élysée, c'est-à-dire les correspondants de l'Élysée qui ont été déménagés et ont traversé la rue.
Le rapport entre les politiques et les médias a largement traversé l'Atlantique.
19h54, merci à vous trois, les grandes voix, Catherine Ney, Gérard Carrérou, Robert Namias, les médias aussi divisés que les Américains finalement là-bas, c'est ce qu'on pourra en retenir. Émilie Mazeuillet, bonsoir.
Salut Mathieu Béliard.
Comment ça va?
Ça va super, et vous?
C'est vendredi.
Ça va pas mal du coup.
Du coup c'est pas mal, on est en musique j'espère.
Mais oui, et devinez avec qui?
Devinez, c'est un peu dur.
On y va. Les Beatles. Non.
Même toi, Paul McCartney, non.
Tout le monde. Non. En fait, ce soir, c'est vendredi, c'est le banc d'essai des nouveautés. Donc, on fait le tour de
grandes nouveautés, les Blackbirds des Beatles.
C'est ça. De tous les albums qui sortent. Et aujourd'hui, il y a la réédition de l'album blanc des Beatles et aussi la réédition d'Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Donc, on va écouter beaucoup de belles choses. Blackbird, fly.
J'arrive pas à couper, Émilie Mazeuillet.
C'est dur. Hein. Ouais,
c'est dur.
On l'aura
c'est
manqué
dur.
Tout à l'heure, c'est promis.
Qu'est-ce que j'ai dragué plus jeune en jouant cette chanson. Merci beaucoup, Émilie Mazeuillet, Gérard Carrérou, Catherine Ney, Robert Namias. Ça vous rappelle aussi des souvenirs, j'ai l'impression. L'album blanc des Beatles avec Émilie Mazeuillet. Les deux prochaines heures en musique sur Europe 1, bien sûr. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés toute cette semaine. Le grand journal du soir avec Philippe Vandel. Ce week-end, je vous retrouve lundi. Bon week-end, Ombline.
Merci, bon week-end. Mathieu Béliard, lundi, 17h, et à suivre Isabelle Millet sur Europe 1 pour l'information.